Les filles du feu angélique. Première lettre. AMLD. Voyage à la recherche d'un livre unique. Francfort et Paris. L'abbé de Bucquois. Pilat à Vienne. La bibliothèque Richelieu. Personnalité, la bibliothèque d'Alexandrie. En 1851, je passais à Francfort. Obligé de rester 2 jours dans cette ville que je connaissais déjà, je n'eus d'autre ressource que de parcourir les rues principales, encombrées alors par les marchands forains. La place du Roumeur, surtout, resplendissait d'un luxe inouï d'étalage. Et près de là, le marché aux fourrures étalait des dépouilles d'animaux sans nombre, venus soit de la haute Sibérie, soit des bords de la mer Caspienne. L'ours blanc, le renard bleu, l'hermine étaient les moindres curiosités de cette incomparable exhibition. Plus loin, les vers de Bohème, aux 1000 couleurs éclatantes, montés, festonnés, gravés, incrustés d'or, s'étalaient sur des rayons de planches de cèdre, comme les fleurs coupées d'un paradis inconnu. Une plus modeste série d'étalages régnait le long de sombres boutiques, entourant les parties les moins luxueuses du bazar, consacrées à la mercerie, à la cordonnerie et aux divers objets d'habillement. C'étaient des libraires venus de divers points de l'Allemagne, et dont la vente la plus productive paraissait être celle des almanachs, des images peintes et des lithographies. Le Volkskalender, almanach du peuple, avec ses gravures sur bois, les chansons politiques, les lithogravures de Robert Blum et des héros de la guerre de Hongrie, voilà ce qui attirait les yeux et les ruses serres de la foule. Un grand nombre de vieux livres étalés sous ces nouveautés ne se recommandaient que par leur prix modique. Et je fus étonné d'y trouver beaucoup de livres français. C'est que Francfort, ville libre, a servi longtemps de refuge aux protestants. Et, comme les principales villes des Pays-Bas, elle fut longtemps le siège d'imprimeries, qui commencèrent par répandre en Europe les œuvres hardies des philosophes et des mécontents français, et qui sont restées sur certains points des ateliers de contrefaçon pure et simple, qu'on aura bien de la peine à détruire. Il est impossible pour un Parisien de résister au désir de feuilleter de vieux ouvrages étalés par un bouquiniste. Cette partie de la foire de Francfort me rappelait les quais, souvenirs pleins d'émotions et de charme. J'achetais quelques vieux livres, ce qui me donnait le droit de parcourir longuement les autres. Dans le nombre, je rencontrais un, imprimé moitié en français, moitié en allemand, et dont voici le titre que j'ai pu vérifier depuis dans le manuel du libraire de Brunet. Événement des plus rares, ou l'histoire du sieur Abbé, comte de Bucquois, singulièrement son évasion du fort l'évêque et de la Bastille, avec plusieurs ouvrages, vers et prose, et particulièrement la gamme des femmes, se vend chez Jean de la France, rue de la Réforme, à l'Espérance, à Bonnefoy, 1749. Le libraire m'en demanda 1 florin et 6 kreutzer. Cela me parut cher pour l'endroit, et je me bornai à feuilleter le livre, ce qui, grâce à la dépense que j'avais déjà faite, m'était gratuitement permis. Le récit des évasions de l'abbé de Bucquois était plein d'intérêt. Mais je me redis enfin, je trouverai ce livre à Paris, aux bibliothèques, ou dans ces 1000 collections où sont réunies toutes les mémoires possibles relatives à l'histoire de France. Je pris seulement le titre exact, et j'allai me promener au Maine Lust, sur le quai du Maine, en feuilletant les pages du Volkskalender. À mon retour à Paris, je trouvai la littérature dans un état de terreur inexprimable. Par suite de l'amendement Riancet à la loi sur la presse, il était défendu aux journaux d'insérer ce que l'Assemblée Séplude a appelé le feuilleton roman. J'ai vu bien des écrivains, étrangers à toute couleur politique, désespérés de cette résolution, qui les frappait cruellement de leurs moyens d'existence. Moi-même, qui ne suis pas un romancier, je tremblais en songeant à cette interprétation vague, qu'il serait possible de donner à ces 2 mots bizarrement accouplés, feuilleton roman, et pressé de vous donner un titre. J'indiquais celui-ci, l'abbé de Bucquois, pensant bien que je trouverais très vite à Paris les documents nécessaires pour parler de ce personnage d'une façon historique et non romanesque, car il faut bien s'entendre sur les mots. Je m'étais assuré de l'existence du livre en France, et je l'avais vu classé non seulement dans le manuel de Brunet, mais aussi dans la France littéraire de Kérard. Il paraissait certain que cet ouvrage noté, il est vrai, comme rare, se rencontrerait facilement, soit dans quelques bibliothèques publiques, soit encore chez un amateur, soit chez les libraires spéciaux. Du reste, ayant parcouru le livre, ayant même rencontré un second récit de l'aventure de l'abbé de Bucquoy, dans les lettres si spirituelles et si curieuses de Madame Dunoyer, je ne me sentais pas embarrassé pour donner le portrait de l'homme et pour écrire sa biographie selon des données irréprochables. Mais je commence à m'effrayer aujourd'hui des condamnations suspendues sur les journaux pour la moindre infraction au texte de la loi nouvelle. 50 francs d'amende par exemplaire saisi, c'est de quoi faire reculer les plus intrépides. Car pour les journaux, qui tirent seulement à 25 000, et il y en a plusieurs, cela représenterait plus d'un million. On comprend alors combien une large interprétation de la loi donnerait au pouvoir de moyens pour éteindre toute opposition. Le régime de la censure serait de beaucoup préférable. Sous l'ancien régime, avec l'approbation d'un censeur, qu'il était permis de choisir, on était sûr de pouvoir, sans danger, produire ses idées, et la liberté dont on jouissait était extraordinaire quelquefois. J'ai lu des livres contresignés Louis et Philippot, qui seraient saisis aujourd'hui incontestablement. Le hasard m'a fait vivre à Vienne sous le régime de la censure. Me trouvant quelque peu gêné par suite de frais de voyage imprévus, et en raison de la difficulté de faire venir de l'argent de France, j'avais recouru au moyen bien simple d'écrire dans les journaux du pays. On payait 150 francs la feuille de 16 colonnes très courtes. Je donnais 2 séries d'articles qu'il fallut soumettre au censeur. J'attendis d'abord plusieurs jours. On ne me rendait rien. Je me vis forcé d'aller trouver M. Pilat, le directeur de cette institution, en lui exposant qu'on me faisait attendre trop longtemps le visa. Il fut pour moi d'une complaisance rare. Et il ne voulut pas, comme son quasi-homonyme, se laver les mains de l'injustice que je lui signalais. J'étais privé en outre de la lecture des journaux français, car on ne recevait dans les cafés que le journal des débats et la quotidienne. M. Pilat me dit « Vous êtes ici dans l'endroit le plus libre de l'Empire, les bureaux de la censure, et vous pouvez venir y lire tous les jours, même le National et le Charivari. » Voilà des façons spirituelles et généreuses qu'on ne rencontre que chez les fonctionnaires allemands, et qui n'ont que cela de fâcheux, qu'elles font supporter plus longtemps l'arbitraire. Je n'ai jamais eu tant de bonheur avec la censure française. Je veux parler de celle des théâtres, et je doute que si l'on rétablissait celle des livres et des journaux, nous eussions plus à nous en louer. Dans le caractère de notre nation, il y a toujours une tendance à exercer la force, quand on la possède, ou les prétentions du pouvoir, quand on le tient en main. Je parlais dernièrement de mon embarras à un savant qu'il est inutile de désigner autrement qu'en l'appelant bibliophile. Il me dit « Ne vous servez pas des lettres galantes de Madame Dunoyer pour écrire l'histoire de l'abbé de Bucquoy. Le titre seul du livre empêchera qu'on le considère comme sérieux. Attendez la réouverture de la bibliothèque. Elle était alors en vacances, et vous ne pouvez manquer d'y trouver l'ouvrage que vous avez lu à Francfort. » Je ne fis pas attention au malin sourire qui probablement pinçait alors la lèvre du bibliophile. Et le 1er octobre, je me présentais, l'un des premiers, à la Bibliothèque nationale. M. Pilon est un homme plein de savoir et de complaisance. Il fit faire des recherches qui, au bout d'une demi-heure, n'amenèrent aucun résultat. Il feuilleta Brunet et Kérard. Il trouva le livre parfaitement désigné et me pria de revenir au bout de 3 jours. On n'avait pas pu le trouver. Peut-être cependant, me dit M. Pilon, avec l'obligeante patience qu'on lui connaît, peut-être se trouve-t-il classé parmi les romans. Je frémis, parmi les romans? Mais c'est un livre historique. Cela doit se trouver dans la collection des mémoires relatifs au siècle de Louis XIV. Ce livre se rapporte à l'histoire spéciale de la Bastille. Il donne des détails sur la révolte des Camisards, sur l'exil des protestants, sur cette célèbre ligue des Faussonniers de Lorraine, dont Mandrin se servit plus tard pour lever des troupes régulières qui furent capables de lutter contre des corps d'armée et de prendre d'assaut des villes telles que Beaune et Dijon. « Je le sais, me dit M. Pilon, mais le classement des livres fait à diverses époques est souvent fautif. On ne peut en réparer les erreurs qu'à mesure que le public fait la demande des ouvrages. Il n'y a ici que M. Ravenel qui puisse vous tirer d'embarras. Malheureusement, il n'est pas de semaine. » J'attendis la semaine de M. Ravenel. Par bonheur, je rencontrai le lundi suivant, dans la salle de lecture, quelqu'un qui le connaissait, et qui m'offrit de me présenter à lui. M. Ravenel m'accueillit avec beaucoup de politesse, et me dit ensuite « Monsieur, je suis charmé du hasard qui me procure votre connaissance, et je vous prie seulement de m'accorder quelques jours. Cette semaine, j'appartiens au public. La semaine prochaine, je serai tout à votre service. comme j'avais été présenté à M. Ravenel, je ne faisais plus partie du public. Je devenais une connaissance privée, pour laquelle on ne pouvait se déranger du service ordinaire. Cela était parfaitement juste d'ailleurs, mais admirez ma mauvaise chance, et je n'ai eu qu'elle à accuser. On a souvent parlé des abus de la bibliothèque. Ils tiennent en partie à l'insuffisance du personnel, en partie aussi à de vieilles traditions qui se perpétuent. Ce qui a été dit de plus juste, c'est qu'une grande partie du temps et de la fatigue des savants distingués qui remplissent là des fonctions peu lucratives de bibliothécaires est dépensée à donner aux 600 lecteurs au quotidien des livres usuels, qu'on trouverait dans tous les cabinets de lecture, ce qui ne fait pas moins de tort à ces derniers qu'aux éditeurs et aux auteurs, dont il devient inutile dès lors d'acheter ou de louer les livres. On l'a dit encore avec raison, un établissement unique au monde, comme celui-là, ne devrait pas être au chauffoir public, une salle d'asile, dont les hôtes sont, en majorité, dangereux pour l'existence et la conservation des livres. Cette quantité de désœuvrés vulgaires, de bourgeois retirés, d'hommes veufs, de solliciteurs sans place, d'écoliers qui viennent copier leur version, de vieillards maniaques, comme l'était ce pauvre carnaval, qui venait tous les jours avec un habit rouge, bleu clair ou vert pomme, et un chapeau orné de fleurs, mérite sans doute considération. Mais n'existe-t-il pas d'autres bibliothèques, et même des bibliothèques spéciales à leur ouvrir? Il y avait aux imprimés 19 éditions de Don Quichotte. Aucune n'est restée complète. Les voyages, les comédies, les histoires amusantes, comme celle de M. Thiers et de M. Capefigue, l'almanach des adresses, sont ce que ce public demande invariablement, depuis que les bibliothèques ne donnent plus de romans en lecture. Puis, de temps en temps, une édition se dépareille, un livre curieux disparaît, grâce au système trop large qui consiste à ne pas même demander les noms des lecteurs. La République des lettres est la seule qui doit être quelque peu imprégnée d'aristocratie, car on ne contestera jamais celle de la science et du talent. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie n'était ouverte qu'aux savants, ou aux poètes connus par des ouvrages, d'un mérite quelconque. Mais aussi l'hospitalité y était complète, et ceux qui venaient y consulter les auteurs étaient logés et nourris gratuitement, pendant tout le temps qui leur plaisait d'y séjourner. Et à ce propos, permettez à un voyageur qui en a foulé les débris et interrogé les souvenirs de venger la mémoire de l'illustre calife Omar de cet éternel incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qu'on lui reproche communément. Omar n'a jamais mis le pied à Alexandrie, quoi qu'en ait dit bien des académiciens. Il n'a pas même eu d'ordre à envoyer sur ce point à son lieutenant Amrou. La bibliothèque d'Alexandrie et le Sérapéon, ou maison de secours qui en faisait partie, avait été brûlé et détruit au IVe siècle par les chrétiens, qui en outre massacrèrent dans les rues la célèbre Hypatie, philosophe pythagoricienne. Ce sont là sans doute des excès qu'on ne peut reprocher à leur religion, mais il est bon de laver du reproche d'ignorance ces malheureux arabes, dont les traductions nous ont conservé les merveilles de la philosophie, de la médecine et des sciences grecques, en y ajoutant leurs propres travaux, qui sans cesse perçaient de vifs rayons la brume obstinée des époques féodales. Pardonnez-moi ces digressions, et je vous tiendrai au courant du voyage que j'entreprends à la recherche de l'abbé de Bucquoy. Ce personnage excentrique et éternellement fugitif ne peut échapper toujours à une investigation rigoureuse.